Et puis remercier Jean-Pierre de Giorgio de nous avoir donné la possibilité de participer à cette journée. Et ce que nous voudrions faire ici, c'est nous interroger sur en particulier la présence de Gorgias dans le Gorgias et de poser la question à qui appartient le Logos. En effet, nous voudrions essayer de resituer l'affrontement entre la rhétorique et le dialogue philosophique en partant de la présence d'éléments tirés de l'éloge d'Hélène de Gorgias dans le Gorgias, et en essayant de prendre la mesure de la portée de la réponse que Platon fait à Gorgias dans le Gorgias, justement. L'enjeu est de savoir qui a le monopole de l'usage légitime du Logos, c'est-à-dire de comprendre d'abord comment Platon exclut un certain mode du Logos, qu'il appelle rhétorique, de l'usage légitime de la parole, et deuxièmement, quelle est la portée de ce geste. Dans cette perspective, nous allons considérer le Gorgias de Platon, non pas en le centrer sur lui-même, mais plutôt comme un nœud dans lequel se forme le problème des relations entre le dialogue philosophique et la rhétorique. C'est pourquoi nous allons essayer d'interroger ce dialogue à travers ce qui se passe à la fois en amont, du côté donc du Gorgias, de Gorgias le sophiste historique en quelque sorte, et en aval, c'est-à-dire comment le problème se constitue dans le Gorgias et comment il se perpétue. Alors, le problème, pour le dire assez rapidement, pour être exprimé ainsi, le Gorgias, vous en êtes sans doute rendu compte, est un véritable réquisitoire contre la rhétorique. Et en même temps qu'il est ce réquisitoire, c'est aussi une exaltation du dialogue philosophique. Et en un sens, vous avez le point où la distance entre la rhétorique et le dialogue se construit, et en même temps, elle se construit en étant maximale. De plus, on a eu l'occasion d'en parler tout à l'heure, vous avez une théorisation du dialogue dans le Gorgias, ou de pratique dialogique dans le Gorgias, qui est peut-être le dialogue platonicien dans lequel le discours sur le dialogue est le plus développé. Or, ce discours sur le dialogue, il se fait systématiquement dans le Gorgias, en contraste avec la rhétorique. La rhétorique qui est envisagée soit comme une pratique du logos, hein, par exemple, on en a parlé tout à l'heure, le discours long contre l'échange bref, ou encore la pratique des témoins au tribunal contre la pratique de l'homologia, de l'accord entre les personnes, et qui est envisagée également, rhétorique qui est envisagée également, pourrait-on dire, comme une certaine sorte d'esprit rhétorique, je veux dire par là, au sens où le dialogue oppose le goût de la victoire à la recherche de la vérité, dans la mesure où il oppose certaines qualités qui sont les qualités de l'homme politique, par exemple, aux qualités de la personne qui est apte à dialoguer. Or, il nous semble que cette partition entre rhétorique et dialogue ne provient pas de rien et peut s'établir comme une réponse à une théorie ou au moins une approche concurrente du logos. Par ailleurs, elle se pose aussi comme un jalon majeur de l'histoire de la rhétorique et de la philosophie. Donc, moi, je vais vous parler dans un premier moment de la présence de Gorgias dans le Gorgias et donc du Gorgias, le Gorgias le sophiste dans le Gorgias l'ouvrage, hein. Et puis Stéphane vous parlera de la question du Gorgias et de l'invention de la rhétorique. Comment finalement le Gorgias est un dialogue dans lequel peut-être la rhétorique s'invente elle-même. Enfin, non, est inventée par la philosophie justement, c'est ça qui est intéressant. Donc j'en reviens à la présence de Gorgias dans le Gorgias. Je vais ici me livrer à un exercice un peu étrange, peut-être périlleux. C'est-à-dire que je vais chercher dans le dialogue fictif entre les participants du Gorgias, et en particulier entre Gorgias et Socrate, les traces d'une polémique réelle entre Platon et Gorgias sur le statut de la rhétorique et du logos. Quand nous avons décidé avec Stéphane de travailler sur le Gorgias, puis que nous avons traduit le Gorgias, on s'est assez vite rendu compte que ça pourrait être très intéressant de publier ce texte en relation avec l'éloge d'Hélène, parce qu'on trouve en fait une série d'allusions, plus ou moins limpides, à l'éloge d'Hélène de Gorgias dans le Gorgias. Et ce sont ces allusions que je voudrais essayer dans un premier temps de vous montrer. On pourrait partir d'abord de la question du titre. Alors c'est très difficile pour les dialogues platoniciens de savoir qui a donné le titre. Très vite, il semble quand même que le Gorgias ait été appelé Gorgias, puisqu'il me semble que déjà Aristote le mentionne sous le nom du dialogue Gorgias. Mais je ne suis pas absolument certain de ça, il faudrait quand même vérifier. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que le dialogue porte le nom du personnage qui parle le moins. Et certes, il est le premier dans l'ordre d'apparition des personnages, mais c'est le dialogue le plus court et en un sens le moins approfondi. Ce qui fait que si on voulait parler nommer le dialogue en fonction de l'importance de l'interlocuteur de Socrate, il aurait été plus logique de parler d'un Calliclès que d'un Gorgias. Pourtant, l'importance de la figure de Gorgias a imposé le titre. Mais à mon avis, il y a plus. Le titre est, quelle que soit la personne qui l'a choisi, bien choisi, parce qu'on trouve des théories de Gorgias, sous forme d'allusions, plus ou moins explicites, qui circulent dans le Gorgias et qui, en quelque sorte, en organisent la pertinence. C'est même avec des thèses du grand orateur sophiste que le dialogue a en partie lieu, nous semble-t-il. Alors je voudrais d'abord présenter un certain nombre de rapprochements entre l'éloge d'Hélène et le Gorgias, afin de bien montrer combien le texte de Platon est imprégné du texte du sophiste. Je partirai du cas le plus évident, par là j'entends textuellement le mieux attesté en quelque sorte, parce qu'il se présente presque comme une reformulation d'un propos de Gorgias. Donc c'est ce que je vous ai mis dans votre exemplier, moi je l'ai pas sous la main, mais bon, ça doit être le premier extrait. Hein. Il s'agit de la définition de la poésie. En 502, Socrate définit la poésie ainsi. Allons, si on enlevait de la poésie tout entière le chant, le rythme et le maître, que resterait-il d'autre que les arguments ? Or, on remarque que ce passage est une reprise très proche de la définition que Gorgias donne dans l'éloge d'Hélène. Je vous redonne la définition. La poésie tout entière, je considère que c'est un logos accompagné d'un maître, et c'est le nom que je lui donne. Bon, les similitudes sont quand même frappantes dans ce passage. Dans les deux cas, on considère la poésie tout entière, et pas selon ses espèces, tes poieseos passes et tem poiesina passan. Et surtout, on opère dans les deux cas une réduction de la poésie à un logos, avec des adjonctions non essentielles, en particulier le maître, qu'on retrouve à la fois chez Gorgias et dans le passage platonicien. Mais il me semble que ce qui importe aussi, c'est la différence des contextes et l'usage qui est fait de cette définition qui est presque identique ou quasi identique. Dans le cas de l'éloge d'Hélène, il s'agit de montrer la puissance du logos sur l'état d'esprit de l'auditeur. Autrement dit, la référence à la poésie ne sert qu'à illustrer la puissance universelle du logos à partir d'un cas particulier, la poésie, qui est censée être spécialement éloquent. Dans le cadre du Gorgias de Platon, il s'agit au contraire de réduire une série de pratiques du logos à un usage illégitime et stigmatisé, celui de la rhétorique, mais pour mieux lui opposer un autre usage possible. En gros, on pourrait dire que Platon reproche à Gorgias d'avoir trop bien choisi son exemple. Il est certes représentatif de la manière rhétorique d'utiliser le logos, mais non pas parce que la puissance du logos est universelle, mais parce qu'il existe une série d'usages illégitimes dont la poésie fait partie. Le deuxième cas d'influence est un peu plus complexe parce qu'il nécessite peut-être plus de médiation. Dans l'éloge d'Hélène, au paragraphe 14, Gorgias compare la puissance du logos sur l'âme à celle des drogues sur le corps. Je vous lis le passage, il doit être aussi dans votre exemplier. Or, la puissance de l'argument a le même rapport envers la disposition de l'âme que la disposition des drogues médicinales envers la nature des corps. De même que parmi les drogues, chacune provoque dans le corps un effet différent et que les unes mettent un terme à la maladie, les autres à la vie, parmi les logoi aussi, certains affligent, d'autres réjouissent, d'autres effraient, d'autres disposent les auditeurs à l'audace, d'autres enfin droguent et ensorcellent l'âme par quelques mauvaises persuasions. On se retrouve donc dans le cadre d'une analogie, comme en atteste l'usage du mot « logos » au sens de « rapport ». Le rapport des drogues au corps est le même que le rapport au logos, du logos aux dispositions de l'âme. Donc on a bien une égalité de rapport, qui est la définition technique de l'analogie. Or, on trouve dans le Gorgias de nombreuses allusions à cette activité du médecin qui agit par le logos. Tout d'abord, je distinguerai trois cas. D'abord, dans l'épisode où Gorgias raconte comment il s'associe au médecin pour convaincre le malade de prendre son remède. Le Gorgias du Gorgias va même plus loin, j'ai dû aussi vous mettre le passage dans l'exemplier, je crois. Le Gorgias du Gorgias va même plus loin, puisqu'il montre comment, en un sens, l'effet du logos sur l'âme est une condition de possibilité de l'effet du pharmacon sur le corps, puisqu'il faut d'abord que le malade soit persuadé avant que de pouvoir être guéri. Mais surtout, c'est le deuxième point. Dans le Gorgias, c'est la figure de l'analogie qui est complètement réaménagée par Socrate afin de repenser les rapports entre l'activité médicale et l'activité rhétorique, et, in fine, d'interdire l'analogie entre la puissance du logos rhétorique sur l'âme et celle des drogues sur le corps. Je vous donne le passage de 465b, et encore, qui synthétise cette analogie, et encore, ce que la cosmétique est à la gymnastique, la sophistique l'est à l'activité législative, et ce que la cuisine est à la médecine, la rhétorique l'est à l'activité judiciaire. Donc, Socrate ou Platon oppose à une analogie une autre analogie. L'orateur, dans ce cadre-là, n'agit pas comme un médecin avec ses drogues, qui, connaissant leur pouvoir, peut provoquer l'effet qu'il veut, mais comme un cuisinier. Or, entre le cuisinier et le médecin, il y a toute la différence du savoir à sa contrefaçon. Mais là encore, on doit être sensible au décalage que Socrate fait subir à la théorie de Gorgias. À la puissance du logos pris comme un tout dans sa capacité universelle à persuader, Socrate substitue une modalité particulière du logos, qu'il appelle rhétorique, dont la place dans les techniques est nettement circonscrite, puisque la rhétorique, c'est la contrefaçon du discours juste en politique qui s'adresse à l'homme. D'autre part, cette place et cette nouvelle analogie est le résultat lui-même d'un usage particulier du logos. Un usage qui, me semble-t-il, anticipe ou une première version de l'usage dialectique tel qu'il sera théorisé un peu plus tard dans le Phèdre, par exemple, en 265D et suivant. On a une idée très précise, dans cette analogie là, du Gorgias, on a une idée très précise du rôle de chaque technique, de ce qui les différencie entre elles et de ce qui les rapproche. Et on a aussi une idée très précise du lien de chacune avec sa contrefaçon, et donc des liens des contrefaçons entre elles. Autrement dit, Socrate produit un tableau des similitudes et des différences, qui est obtenu, qui plus est, par une méthode peut-être un peu rustique, en quelque sorte, de divisions successives. Les arts qui s'occupent de l'âme, et puis ceux qui réparent, ceux qui entretiennent, etc. La chose est ainsi connue par elle-même et dans ses rapports de ressemblance et de différence avec les autres choses, ce qui correspond à la définition de la dialectique telle qu'on la trouve dans le passage du Phèdre que je mentionnais tout à l'heure. Donc, en un sens, Platon reprend à Gorgias le principe de son analogie entre des techniques qui agissent sur le corps et des techniques qui agissent sur l'âme. Mais il la réaménage de telle sorte que l'analogie entre la médecine et la rhétorique, qui est implicite chez Gorgias, soit désormais impossible, médiatisée qu'elle est par les techniques de la flatterie. Ce faisant, il la rend inopérante. En fait, la lecture qu'on peut faire, c'est qu'il cherche à rendre inopérante l'argument par lequel Gorgias, dans l'éloge d'Hélène, vantait la puissance du logos. Enfin, la troisième attestation de cette question, vous la trouvez dans l'image, ou plutôt il faudrait dire les images du tribunal des enfants, puisqu'elles apparaissent en deux endroits, en 460DE et en 522A. Or, il me semble qu'on peut trouver là encore une manière pour Platon de rétorquer à Gorgias, en s'opposant au tableau idyllique qu'il avait donné lui-même d'une collaboration entre le logos de l'orateur et la médecine. C'est-à-dire en s'opposant aussi à l'analogie entre la puissance des drogues et celle des arguments. Et que fait Platon ? Il oppose un autre tableau, censé être plus véridique car fondé sur les rapports exacts de l'analogie des techniques et de leur contrefaçon, un tableau du pouvoir de nuisance de la rhétorique à l'encontre d'une vraie technique. Puisque, devant l'assemblée des enfants, c'est le flatteur qui l'emporte sur celui qui dispose de la technique réelle. Loin donc qu'on puisse dresser une analogie entre la rhétorique et la médecine, ou entre l'usage rhétorique du logos et la pratique médicale de la pharmacie, on doit bien plutôt les opposer, comme on oppose la technique véritable à sa contrefaçon. Enfin, le cas le plus important de présence de Gorgias dans le Gorgias, du Gorgias historique dans le Gorgias de Platon, me semble se trouver dans le tout début du texte, c'est-à-dire dans la question qui ouvre le dialogue et qui va, en un sens, en orienter le mouvement jusqu'au bout. Je vous rappelle la situation, on en a parlé tout à l'heure. Socrate arrive en retard, mais il arrive avec une demande précise qu'il veut faire à Gorgias. Je vous lis le passage, je l'ai mis dans votre exemplier. Tu parles bien, Calliclès, mais consentirait-il, donc il s'agit de Gorgias, consentirait-il à discuter avec nous ? En effet, je voudrais apprendre de Gorgias quelle est la puissance de sa technique, c'est-à-dire ce qu'il fait profession d'être et ce qu'il enseigne. Sa démonstration, comme tu dis, il pourra bien la faire plus tard. Calliclès, le mieux est de lui demander Socrate. Un des passages de sa démonstration portait d'ailleurs là-dessus. En tout cas, il vient de demander au public assemblé à l'intérieur de l'interroger sur ce que bon lui semble, et il a dit qu'il donnerait des réponses à tout. Or, il me semble qu'on peut trouver une réponse à cette question justement dans l'éloge d'Hélène, au paragraphe 8, dans le passage très célèbre. L'argument est un tout-puissant souverain, écrit Gorgias, qui, par le biais d'un corps minuscule et invisible, accomplit les exploits les plus divins, car il a le pouvoir de faire cesser la peur, d'ôter le chagrin, de faire éclater la joie et naître la pitié. On peut presque voir dans l'expression « caigar hen tut hen tes epideixeos » un renvoi explicite de Platon à l'éloge d'Hélène. Après tout, la formule du paragraphe 8 répond presque exactement à la question de Socrate sur la puissance de la rhétorique. Elle est toute puissante. Et l'éloge d'Hélène est, on le sait, par ailleurs, un modèle d'épidéixis gorgienne. Ce qui pourrait d'ailleurs expliquer qu'il a été conservé, parce qu'il avait vraiment un modèle de ce genre de discours. On peut donc imaginer, comme certains interprètes l'ont fait, que le discours que Gorgias vient de prononcer quand Socrate arrive, c'est justement l'éloge d'Hélène. Mais quoi qu'il en soit de cette hypothèse qui, à la vérité, je pense, est invérifiable. C'est tentant, mais on n'a rien pour trancher la question définitivement. Quoi qu'il en soit de cette hypothèse, ce qui est certain, c'est que Gorgias semble avoir disposé d'une réponse à la question de Socrate. Le logos est tout-puissant et il doit sa puissance aux effets qu'il est capable d'induire chez l'auditeur. Mais ici aussi, il faut être sensible à un glissement entre le texte de Gorgias et celui de Platon. Alors que Gorgias se concentre sur le logos pris comme un tout, Platon met en avant la technique de Gorgias, c'est-à-dire une certaine manière d'utiliser le logos, dont on suppose immédiatement qu'elle n'est pas unique. Et Gorgias interrogera dans le Gorgias à la fois la notion de toute-puissance et la notion de technique qui prétend être toute-puissante par l'action de la persuasion. C'est ce logos qu'il appellera rhétorique. C'est dire que dans cette question, une grande partie du déroulement du Gorgias est virtuellement contenue. Je m'arrêterai ici dans la description des parallèles entre les deux textes, parce qu'ils suffisent pour le sujet qui est le nôtre aujourd'hui. Mais sachez qu'il y a d'autres rapprochements possibles, par exemple sur la contrainte exercée par le plus fort, sur la place du plaisir, sur l'homme vaincu par le plaisir, on trouve des éléments qui sont de similitude assez frappants dans le bref texte qu'est l'éloge d'Hélène. Je voudrais maintenant revenir à la question du traitement du logos philosophique dans l'éloge d'Hélène. Je l'ai montré à l'instant, presque à chaque fois qu'on trouve dans Platon des allusions à la théorie de Gorgias sur le logos, Platon remplace logos par techné ou rhétoriké. Et ce faisant, il réduit la portée de l'argument de Gorgias. Gorgias dit que ça vaut pour tout le logos, et Platon dit non, toi tu ne parles que d'un certain type de logos. Insistant par là donc qu'il ne s'agit pas de propriété du logos en général, mais d'un certain usage du logos. Or, pour Gorgias au contraire, il s'agit de la question du logos en général, et ce qu'il dit de sa puissance s'applique de la même manière au logos philosophique, à la poésie, et en fait à toutes les modalités du discours persuasif. Pour comprendre cette thèse, il est nécessaire de dire quelques mots de la théorie de la persuasion telle que Gorgias la développe dans son Épidaïxis, donc dans l'éloge d'Hélène. La persuasion agit à deux niveaux. Au premier niveau, le sophiste mentionne à plusieurs reprises sa capacité à faire naître des passions ou des affects dans l'âme, ou au contraire à les apaiser. Vous avez la peur, le chagrin, la joie et la pitié au paragraphe 8, la peur, la pitié, le désir mêlé de tristesse au paragraphe 9, la joie, la tristesse, la peur, le courage au paragraphe 14. Et c'est seulement par la suite qu'une action sur le corps peut advenir, les frissons et les larmes au paragraphe 9, voire une action sur la décision de l'âme, consentir à ce qui est fait, nous dit le paragraphe 12. Donc, sous l'effet du logos, l'âme subit et éprouve des affects, un pathos, un affect, qui peut varier en fonction du type d'argument, du type de logos qui est mis en œuvre. La persuasion passe donc par la production d'émotions déterminées. Mais, à côté de ces effets sur les émotions, on trouve un effet plus spécifique, un effet, nous dit Gorgias, sur la croyance, pistis, qui est produite par une action sur les opinions, doxai, et donc qui n'est pas produite directement sur les affections, pathemata. C'est grâce à cette double action sur la croyance et sur les émotions que s'opère en fait la persuasion. Il est d'ailleurs tout à fait possible de penser une combinaison des deux. En agissant sur l'opinion, on provoque une modification dans les émotions qui provoque la réaction corporelle, ou le consentement, ou le rejet, etc. Par ailleurs, cette double action n'est pas une action qui suppose, chez Gorgias, une dualité psychique. Au contraire, rien n'indique que Gorgias dispose de la psychologie dualiste de Platon. Pour lui, l'âme a l'air bien plutôt de former un tout où émotions et croyances sont intimement liées. Dès lors, le logos philosophique est mis sur le même plan que les autres pratiques du discours. Sans même mentionner la poésie qui, elle aussi, agit grâce à des logoi, comme c'est dit dans le paragraphe 9, Gorgias va mettre sur le même plan trois pratiques du discours. C'est dans le paragraphe 13 qui doit être également dans votre exemplaire. Que la persuasion accompagnant l'argumentation aille jusqu'à marquer l'âme comme elle le veut, il faut l'apprendre d'abord des arguments des météorologues, eux qui, en opposant une opinion à une autre, ôtant l'une, rendant manifeste l'autre, font voir des choses incroyables et invisibles aux yeux de l'opinion. Il faut l'apprendre ensuite de ces joutes oratoires où l'on contraint par des arguments, et dans lesquelles une argumentation écrite avec technique, mais prononcée sans considération de la vérité, charme et persuade à elle seule une foule nombreuse. il faut l'apprendre en troisième lieu, des luttes entre les arguments philosophiques, desquels il ressort que la vivacité d'esprit rend la croyance de l'opinion comme malléable à l'infini. Bon. Ces trois usages, on les aura reconnus, il s'agit d'un usage, disons, de type scientifique, celui du météorologue, d'un usage rhétorique et d'un usage philosophique, avec probablement, je vais y venir, une allusion au dialogue. Gorgias soutient que tous ces usages du logos procèdent par manipulation de la croyance afin d'agir sur les opinions. Dans les trois cas, ce qui est mis en exergue pour justifier la puissance du logos sur l'âme, c'est la capacité à faire varier l'opinion d'un contraire à l'autre, en agissant directement sur la croyance. Mais à chaque fois, on va mettre l'accent sur, en quelque sorte, une manière différente d'agir sur la croyance. Ainsi, d'abord, les spécialistes des choses célestes arrivent à nous faire croire à des choses qu'on ne peut pas voir, hein, à nous faire croire à l'invisible. Ensuite, les orateurs, que l'on reconnaît à travers l'expression « logon agonas », et par la description de la situation rhétorique de l'homme seul qui s'adresse à une foule, parviennent justement à manipuler des foules tout entières. Enfin, les logoi philosophoi valent surtout par la promptitude avec laquelle ils peuvent retourner la croyance dans un sens ou dans l'autre. Il semble bien ici que la référence soit à la pratique du dialogue, peut-être sous sa forme éristique. Car Gorgias parle de philosophon logon amilas, et fait référence à la vivacité d'esprit qui est une qualité nécessaire dans un dialogue plus que dans un traité philosophique. Ainsi, le sens semble être soit que les auditeurs, au cours de la discussion, passent alternativement de l'opinion de l'un des interlocuteurs à celle de l'autre, grâce aux arguments qui sont déployés, soit, dans un modèle peut-être plus socratique du dialogue, que ceux qui arrivent avec une opinion arrêtée sur une question en changent sous l'effet d'une réfutation. Dans tous les cas, il apparaît que le logos philosophique n'a aucun privilège sur les autres pratiques du discours, en particulier pour ce qui est de la vérité. Toute persuade par l'action sur les opinions via la croyance. Le dialogue philosophique n'est ni plus ni moins persuasif que les autres. Surtout, la persuasion qu'il met en œuvre est du même type que le logos des joutes oratoires, que le logos rhétorique. Il n'a ni privilège ni supériorité, il manifeste juste d'une autre manière la même toute-puissance du logos. Et c'est ce qui, me semble-t-il, est inadmissible pour le Socrate du Gorgias. Platon va donc nous contraindre à scinder la puissance du logos, c'est-à-dire à distinguer les types de persuasion, et ce faisant, il va inventer la rhétorique.
Merci. Donc, moi, mon propos, à partir de cette hypothèse qui a été faite et expliquée par Pierre, mon propos est maintenant de faire un mouvement de recul pour essayer d'interpréter finalement ce coup de force opéré par Platon en soit inventant la rhétorique, soit en donnant un sens particulier à la rhétorique, on verra les deux options, d'interpréter donc ce coup de force comme étant, un, le propre de ce qui se joue dans le Gorgias, et donc comment finalement Platon invente ce qui est pour lui la seule façon de philosopher, en invalidant donc la rationalité sophistique. Puisque, c'est ce que expliquait Pierre, en fait, du point de vue des sophistes, ou en tout cas du point de vue de Gorgias, on a une sorte de plan d'immanence où tous les logoi se valent, et où ce qui fait la vérité d'un logos, c'est son efficacité, à une norme du logos, où ça va être, en fait, en réalité, les normes qui ont été décrites par M. Cossutta tout à l'heure, c'est-à-dire une exigence de cohérence, de cohésion à la réalité, etc. etc. Alors, donc, maintenant, je vais essayer de voir comment on peut interpréter et quel est le sens de ce déplacement qui, à mon avis, est fondamental non seulement pour la conception qu'on se fait de la philosophie à l'époque de Platon, mais aussi aujourd'hui, et d'autre part, qui est fondamental pour l'histoire de la rhétorique, donc qui est en fait fondamental pour la relation entre ces deux entités. Alors, ma thèse est double. Elle est d'une première thèse, qui est que le concept de rhétorique, que l'usage du concept de rhétorique dans l'œuvre de Platon est particulier, que la rhétorique donc est un opérateur qui permet la relégation de la pensée sophistique. La première thèse. La seconde thèse, c'est que, je verrai en conclusion, cette opération a des répercussions sur la conception que l'on a de la rhétorique encore à l'heure actuelle. Et j'ajouterais, puisque vous êtes tous en lettres classiques et nous on est en philosophie, ça a aussi des répercussions, à mon avis, sur la distinction institutionnelle entre le champ philosophique et le champ du littéraire. D'accord, la distinction entre le philosophique et le littéraire est commandée par le type de, relégation ou d'opération qui a lieu dans le Gorgias. Je ne dis pas ça pour, en phase rhétorique ou par volonté de, faire mousser la sauce, mais simplement pour montrer dans quel sens de, d'interprétation générale je me place. Alors, cette lecture, elle provient en fait d'un intérêt qui était le mien pour l'histoire de la rhétorique, et notamment pour une conception qui est née dans les années 50 avec ce qu'on appelle le mouvement de la rhétorique généralisée, d'accord, qui, à partir des travaux de Perelman et Lucie Olbrecht-Titeka, donc la référence fondateur, c'est le traité de l'argumentation, va proposer donc de produire une théorie de la rhétorique générale ou généralisée. Et cette théorie, elle consiste à remarquer finalement comment, dans l'histoire de la rhétorique, c'est restreinte au fur et à mesure à n'être plus que l'étude de la lexis ou l'étude de l'élocution. Dans mon exemplier, je ne vais pas m'arrêter sur les textes, on n'aurait pas le temps, mais j'ai mis la référence d'un texte, d'un article de Genette qui montre cet enfermement de la rhétorique. Vous voyez juste la dernière phrase, hein. La rhétorique tend à devenir pour l'essentiel une étude de la lexis poétique. Il y a donc, dans l'histoire de la rhétorique, une restriction qui fait que, alors qu'elle, comme vous le savez, était censée couvrir tous les champs du discours, l'inventio, la dispositio, l'elocutio, l'actio, la memoria, elle se spécialise en une simple théorie de l'élocution ou du style. Et cette restriction est aussi constatée dans le primat qui est donné assez rapidement dès l'Antiquité, dans le primat pour le genre encomiasticon ou laudoatium, le genre de l'éloge, du fait de eh bien, la dégradation, on va dire, des conditions démocratiques de prise de la parole. À partir du moment où il n'y a plus d'enjeu politique à prendre la parole au Sénat, à partir du moment où il n'y a plus d'enjeu pour convaincre le juge, alors la rhétorique devient étude littéraire au sens galvaudé du terme, c'est-à-dire une étude des fleurs de la rhétorique, des figures de style, donc de toutes ces ornements certes agréables, mais qui ne touchent pas au fond. Et alors, dans cette critique dans les années 50 qui est faite sur la restriction de la rhétorique et cet appel à la rhétorique générale, cet appel du retour à la rhétorique générale se fait parallèlement à un appel au retour à l'Antiquité. D'accord ? C'est-à-dire que ce que dit, que ce soit Genette ou Perelman, c'est que finalement, dans l'Antiquité, on avait une conception beaucoup plus générale de la rhétorique comme une pratique finalement en général de l'argumentation. Alors, ma thèse, donc, à partir de la lecture de Gorgias, c'est de montrer que finalement, ce mouvement de restriction n'est pas du tout lié à un passage en fait de l'ancien au moderne, mais que ce mouvement de restriction est déjà à l'œuvre dans l'œuvre de Platon, il est déjà à l'œuvre dans le Gorgias, d'accord ? Et donc que précisément l'opération de Gorgias consiste en une restriction, une triple restriction de la rhétorique. Car que fait Platon dans le Gorgias ? Eh bien, alors que Gorgias propose une théorie générale du logos, donc que nous avons traduit par argument, d'accord, pas tant du discours, mais de l'argumentation en général, de toutes les formes d'argument, alors que Gorgias proposait une théorie générale du logos, Platon va enfermer Gorgias dans une pratique restrictive d'une certaine forme d'argumentation qu'il va appeler rhétorique. Et cette restriction va conduire à être, va être plutôt réduite, va être amenée à un choix de vie qui est le choix de vie de Calliclès, c'est-à-dire l'hédonisme radical. Alors, pour revenir au texte du Gorgias, on peut voir dans le dialogue cette réduction, notamment dans un passage qui est le passage long que je vous ai mis dans le second texte de mon exposé, de mon exemplier, pardon, qui est un texte, pareil, je ne pourrais pas le lire, mais je vais juste en sortir quelques éléments, si vous voulez, pour voir comment fonctionne cette restriction. C'est un texte qui m'intéresse particulier, il n'est pas toujours très commenté, qui est le texte où finalement Gorgias est amené à définir la rhétorique en précisant son propos. Et donc, comment ça commence ? Bah, ça commence par, Gorgias commence par dire que, la question de Socrate, je vais prendre juste le début. Réponds-moi encore de la même manière au sujet de la rhétorique. De quel type d'être est-elle la science ? Elle est donc la science des arguments. De quelle sorte des arguments, etc., etc. Donc la première question, c'est de savoir quels sont les êtres sur lesquels porte la rhétorique. Et la réponse de Gorgias dit ça porte sur les arguments. Et Socrate va corriger cette définition en montrant, un, que la rhétorique ne porte pas sur tous les arguments, mais sur les arguments dont, je cite, c'est plus bas, la totalité de l'action et son exécution passe par des arguments. Alapassa est praxis, kai est kurosis, dialogon. Donc, à la différence de la médecine ou de la gymnastique, la rhétorique porte sur les logoi qui n'ont pas d'action physique dans le monde. Platon donc refuse par là exactement ce dont parlait Pierre, c'est-à-dire il refuse le plan d'immanence qui fait que Gorgias considérait les logoi au même niveau. D'accord ? À partir du moment où ça a un effet, et quel que soit finalement le type d'effet, qu'il soit physique, mental, etc., il n'y a pas de raison de faire cette distinction-là pour Gorgias. D'accord ? Platon, lui, en revanche, isole la rhétorique comme étant la technique qui, ou la pseudo-technique qui finalement utilise les arguments pour contraindre, d'accord, sans qu'il y ait une pratique manuelle. Il n'y a pas de keirurgema dans la rhétorique. Alors, cette première définition doit être donnée lieu à une seconde précision, puisque il y a, dit Socrate, plusieurs techniques qui contraignent par l'argument, notamment l'arithmétique, qui va contraindre par l'argument sur des objets qui portent, sur des arguments qui portent sur le pair et l'impair. Et c'est à cette occasion que va apparaître le fait que l'objet des arguments dont parle la rhétorique, c'est non pas donc le pair et l'impair comme l'arithmétique, mais la persuasion. Elle est, vous connaissez ça par cœur, je suppose, productrice de persuasion, 453A, elle est peitus, il est plutôt l'artisan qui fait ça, demiurgos peitus, estin est rhétorique. Alors, et toute son activité et son principe vers cela. C'est donc la persuasion qui constitue l'objet sur lequel porte la rhétorique, et il faut une dernière détermination pour comprendre exactement le sens de la rhétorique selon Platon. Elle produit non pas toute forme de persuasion, parce qu'après tout, penser quelque chose de vrai, c'est une forme de persuasion. Quand je suis persuadé que 2 plus 2 égale 4, eh bien, j'en suis persuadé de la même façon que je suis persuadé qu'il fera de bon beau demain, alors que j'en sais rien. Pour qualifier cette persuasion, donc Socrate va montrer que la rhétorique se concentre sur la persuasion, non pas qui provient d'une connaissance, mais celle qui provient d'une croyance sans savoir. Et c'est donc l'expérience subjective de la persuasion, quelle que soit sa cause, qui fait l'objet de la rhétorique. Alors, en quoi y a-t-il ici restriction ? Eh bien, en ceci que, donc je pointe une triple restriction, il y a une restriction ontologique, puisque seuls quelques logoi parmi les logoi sont rhétoriques, c'est ceux qui, on l'a expliqué, portent sur la persuasion, alors que la sophistique se voulait une théorie de tous les logoi. Il y a une restriction épistémologique, puisque la rhétorique ne vise que la persuasion produite par la croyance, d'accord ? Et Socrate va réserver l'autre face de la persuasion à sa face vertueuse, si on veut, à la science ou à la philosophie. On a encore un peu.
Oui, encore quelques minutes.
quelques minutes, d'accord, j'accélère. Il y a enfin une restriction morale qui fait que la rhétorique n'est pas une technique parce qu'elle ne vise pas le meilleur. Et ça, en fait, c'est analytiquement lié au défaut de savoir dont procède la rhétorique, puisque selon la thèse de la vertu science, l'absence de connaissance ne peut pas donner de normes d'usage. Alors, donc, cette restriction enferme la rhétorique, si vous voulez, dans une conception critique. Alors, donc je vais aller très vite sur cette hypothèse historique qui est intéressante de critique pour aller à mes conclusions. En gros, cette lecture qui consiste à dire finalement que l'objet rhétorique est produit par Socrate, par Platon plutôt, pour disqualifier en fait une forme de rationalité qui est la rationalité sophistique. Cette hypothèse, elle peut être corroborée par un mouvement critique qui est particulièrement intéressant, qui est porté par, si je vous ai mis un extrait, par le livre de Chiappa, qui s'appelle The Beginnings of Rhetorical Theory in Classical Greece, qui est un livre qui succède à un article qu'il a fait qui s'appelle Did Plato Coin Rhetoricae, donc dont l'hypothèse était que Platon avait inventé le mot rhétorique. Et je vous le fais très rapidement, l'idée de Chiappa, c'est que finalement, avant Platon, les mentions de rhétorique et de rhétoria sont rares, soit elles sont en fait plus tardive, quoi. On ne trouve pas le terme chez Euripide, on ne trouve pas le terme chez Aristophane, etc. etc. Il n'est même pas dans la rhétorique à Alexandre. Et finalement, on se rend compte que le terme apparaît tel quel, avant tout à partir d'Isocrate, donc dans un contemporain de Platon. Et donc l'idée, c'est que finalement, même si Platon n'a pas inventé le terme, eh bien, c'est lui qui va faire que tous les regards vont se focaliser sur la rhétorique, alors qu'avant Platon, on parlait plutôt de techné ton logon, hein, de persuasion, etc. etc. Alors, cette thèse, elle aboutit donc à l'idée que finalement, et c'était à ça que je voulais en venir, que finalement, l'idée même de rhétorique, si vous voulez, est née dans un contexte qui fait que la science ou cette pratique est problématique. Et en conclusion, donc, je voulais ouvrir sur deux conceptions de la rhétorique qui me semblent porter encore cette marque infamante produite par Platon. En effet, alors je mets de côté les technaïs qui, elles, en quelque sorte, entérinent la critique de Platon, puisque tous les manuels de rhétorique qui produisent des petites distinctions ou des recommandations, ben, finalement, elles acceptent la critique fondamentale de Platon, qui est qu'il n'y a pas de connaissance préalable. Mais je voulais aller directement, enfin, là où la thèse est plus litigieuse, deux auteurs donc, essayer de défendre la rhétorique. Aristote et Cicéron. Chez Aristote, on le sait, dans la rhétorique, il y a une sorte de compréhension scientifique des productions de la rhétorique. Cependant, je suis obligé d'aller très vite, je vous renvoie au texte de Réfutation sophistique, là. Cependant, lorsque Aristote réfléchit sur finalement ce que faisaient les sophistes, eh bien, il renvoie à une certaine pratique de la rhétorique, c'est-à-dire au fait d'apprendre par cœur des arguments sans les comprendre. Okay. Donc même chez Aristote, qui est censé quand même défendre un petit peu la rhétorique contre les critiques de Platon, et notamment contre la critique selon laquelle la rhétorique n'est pas une technique, on retrouve finalement cette subordination de la rhétorique à la philosophie. Chez Cicéron, la question est plus compliquée, parce que vous savez que dans le De Oratore, il y a quand même un plaidoyer pour la rhétorique, il y a même l'idée que, en gros, la rhétorique est capable d'imiter la philosophie, alors que la philosophie n'est pas capable d'imiter la rhétorique. Mais chez Cicéron, finalement, la pratique de l'orateur est bornée par la restriction morale produite par Platon, puisque pour Cicéron, il ne saurait être, il n'est pas possible d'enseigner la rhétorique à d'autres personnes qu'à des personnes qui sont moralement bien faites, hein, c'est la définition latine c'est la définition de Caton, la vir bonus peritus dicendi, d'accord. On enseigne la rhétorique à des gens qui sont déjà bien formés pour être certains qu'ils ne vont pas en faire un mauvais usage. D'accord ? Et donc, en quelque sorte, la vertu, sinon philosophique, mais en tout cas la vertu aristocratique, précède, doit précéder l'enseignement rhétorique. C'est le sens du dernier texte que je vous ai mis du De Oratore, là, au livre 3, hein, où je vous prends juste la fin. Hein, plus sa puissance est grande, plus il faut qu'il s'y joigne une haute probité et une sagesse exemplaire. À des hommes privés de ces vertus, donner les moyens de parler, ce n'est pas faire des orateurs, c'est mettre en quelque sorte des armes aux mains des forcenés. Ainsi, donc dernier mot, ainsi la rhétorique est un terme qui est manipulé en quelque sorte, manipulé pour désamorcer la force qui était dans la sophistique et l'idée que finalement on allait apprendre l'art de la persuasion. Et cette force-là est en quelque façon rendue inoffensive et inopérante en la rendant art de bien parler.